Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-état. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie aujourd'hui de montrer une autre image de Dubaï, celle des Français qui entreprennent. Avec l'exposition universelle 2020 ou encore le musée du futur dont l'accent est mis sur l'innovation autour des défis du changement climatique, j'ai le pressentiment que Dubaï a encore de belles années devant elle. Et grâce à mes invités, j'ai envie de vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également fondatrice du podcast L'Aléa sur la prise de risque et auteure du site lowfromparis.com. Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à lowfromparis. Et si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. Petite news, pour les passionnés de podcasts et ceux qui rêveraient de créer le leur, j'ai créé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Au programme, comment créer votre podcast et votre identité de marque de zéro au lancement. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte Marius, dirigeante du Wagon Dubaï, formation classée numéro 1 des formations en développement web dans le monde. Hello Charlotte.
Salut.
je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui, même
moi
si
aussi.
On a un petit peu papoté avant, mais bon, pas trop justement, pour en garder pour le podcast. On s'est connus sur LinkedIn, tu m'as présenté ton projet que j'ai trouvé génial, donc, qui s'appelle le Wagon Dubaï, donc l'école pour apprendre à coder qui existe déjà, si je ne me trompe pas, à Paris et dans plusieurs villes dans le monde depuis quelques temps. Avant de parler de ce projet plus en détail, de comment tu en es arrivé à travailler pour le Wagon, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, que tu te présentes et que tu nous dises depuis combien de temps tu vis à Dubaï et avec qui.
Alors, je m'appelle Charlotte,
oui.
Grosse surprise, j'ai 32 ans. Et je suis à Dubaï depuis presque 2 ans maintenant.
Mmh.
Et je suis venue pour mon copain qui est maintenant mon mari. Et je suis hyper heureuse à Dubaï. C'est une ville que je trouve absolument géniale. Je suis hyper contente d'être ici.
D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu es venue à Dubaï?
Alors moi, donc, comme je disais, je suis venue parce que mon copain était déjà ici et je travaillais à l'époque chez Nestlé en France.
Ok.
Et donc, j'ai réussi à être transférée à Dubaï, hein, au même poste chez Nestlé.
Ok. Génial.
Donc, voilà.
Et du coup, donc aujourd'hui, donc, tu travailles pour le Wagon, donc une école pour apprendre à coder, donc, qui a été fondée par Boris et Romain Paillard. Comment tu es passée du coup de Nestlé au Wagon?
Oui, rien à voir.
Rien à voir. Surtout que je crois que du coup, le Wagon, ça n'existait pas à Dubaï à ce moment-là.
Non, exactement. Alors, pour la faire courte ou longue, on verra.
Ouais. Comme tu le sens.
En gros, donc j'ai un parcours purement franco-français, école de commerce, et après je suis rentrée directement chez Nestlé. Ça faisait 7 ans que j'étais chez Nestlé en contrôle de gestion, donc 1 an à Dubaï.
Ouais.
Comme beaucoup de gens peut-être, bref, grosse boîte, un poste qui promettait peut-être une carrière, mais où je ne trouvais pas vraiment de valeur ajoutée. Je commençais un peu à perdre un peu confiance en moi, à chercher ce qui m'épanouissait. Et donc, je suis passée un peu par toutes les phases. J'ai réfléchi à plein de choses, devenir enseignante, prendre des cours de psycho.
Ouais.
Voilà. Sans vraiment trouver la chose qui me faisait le déclic.
Mmh.
Donc, je me suis dit, OK, et je perdais de plus en plus confiance en moi. Donc, je me suis dit, OK, il faut que...
En parallèle de ton travail, tu étais
chez
Nestlé.
Toujours chez Nestlé, mais je ne me voyais pas quitter mon job pour rien du tout.
Ouais.
Et commencer à réfléchir sur moi-même, ça me faisait extrêmement peur.
Mmh.
J'entendais pas mal parler du code parce que j'ai un ami qui travaille au Wagon à Paris.
Okay.
Et je me suis dit, apprendre le code, de toute façon, ça me sera utile si quoi que je veuille faire après. C'est une occasion d'apprendre un nouveau, une nouvelle matière et donc du coup de regagner confiance en moi et en même temps de commencer un peu à réfléchir à ce que je veux vraiment. Donc je commence à rechercher.
Tu t'es dit au départ c'est un passe-temps en fait. Ouais, je le voilà. fais à côté en attendant de trouver le projet qui va m'animer.
Exactement, rencontrer de nouvelles personnes et parce que c'est un peu compliqué de se remettre en question en étant en même temps en train de travailler.
Exactement.
Je trouve. Donc voilà, je me suis dit ça et j'ai essayé de chercher ce genre de bootcamp ici à Dubaï que je n'ai pas trouvé. Du coup je suis rentrée en France et j'ai fait ces 2 mois de wagon à Paris.
Ok.
J'ai adoré l'expérience.
Ouais.
Et enfin, ça a été au-dessus de toutes mes espérances. Mmh. Et puisque j'avais pas trouvé ça à Dubaï, je suis rentrée à Dubaï et je me suis dit, ok, il faut que je partage mon expérience, il faut que je fasse la même chose à Dubaï et que j'essaye de monter ça à Dubaï.
Donc,
j'ai présenté le plan au fondateur et
ils ont accepté.
Hyper enthousiastes.
Et comment ça se passe concrètement en fait en quoi consiste l'école si ouais. je me mets dans la peau de quelqu'un voilà, qui veut en savoir plus, qui veut apprendre à coder, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a différents types de formations en fonction de différents niveaux ou...
Alors, la formation originale, c'est 9 semaines. Donc full time, ça veut dire de 9h à 18h pendant la semaine. Et donc, t'as pas besoin de background. Moi, j'ai jamais codé avant d'aller dans cette école. Okay. Pas une seule ligne de code.
Ouais.
Et il faut juste beaucoup de motivation. Et au bout de 9 semaines, t'es capable de créer un site web à partir de rien. Et j'en suis vraiment la preuve vivante. Enfin, pendant le confinement, là, j'ai créé des sites web pour ma famille, pour mes amis. Et c'est super satisfaisant parce que la pédagogie du wagon est incroyable parce qu'elle te mène pas à pas sans jamais te perdre pour apprendre. Et tous les jours, t'apprends de nouvelles choses. C'est incroyable. Tu rencontres des gens de background complètement différents. Ça, c'est une ouverture d'esprit absolument géniale pendant ces 9 semaines.
Ouais.
Et non, c'est une expérience humaine et pédagogique incroyable.
Génial. Et du coup, donc tu me dis, ouais, ces formations s'adressent vraiment à tout le monde. Qu'est-ce qui distingue le wagon, peut-être ouais. que tu ne sais pas, mais des différentes formations qui existent sur le coding ou... Est-ce que tu sais, tu peux nous en parler?
Ah bah, pour moi, le wagon, c'est hyper complet. Donc, ça veut dire que tu apprends à monter un site, mais en passant par le design, par avoir une expérience utilisateur la meilleure qui soit.
Et j'imagine aussi qu'il y a aussi peut-être une expérience... Enfin, quand on monte un site internet, il y a toujours le SEO, le référencement
voilà,
naturel
tout
et tout ça.
En
tout
fait,
ça, c'est intégré.
C'est ça, la valeur ajoutée du wagon, ouais. c'est que c'est business-oriented.
Enfin, d'accord.
Je parle à moitié ouais. en anglais, mais ça veut dire que c'est orienté produit. Le but, c'est qu'on résolve un problème utilisateur et que l'application web qu'on crée à la fin soit utile et soit commercialisable. Et donc, c'est ça la valeur ajoutée du wagon. C'est que c'est pas seulement t'apprendre à coder...
Oui, bêtement, on va dire.
Un peu, bah, oui, voilà. Ouais. C'est aussi t'apprendre comment ton produit, à la fin, va être utile. Donc, et c'est ça qui est génial.
Et c'est génial. Et d'ailleurs, vous avez... arrête-moi si je me trompe, mais vous avez un mantra que j'ai vu pas mal en parcourant votre site web. Apprenez à coder et changez de vie. Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que c'est justement la philosophie, c'est OK, tu veux changer de voie et tu veux peut-être créer un business et tout ça, et que le site internet, il est au centre de tout. Et donc, du coup, c'est un premier pas ou qu'est-ce
ouais,
qu'il
mais
y a derrière ça?
Pour moi, c'est apprendre à coder, changer de vie. C'est parce qu'aujourd'hui, je pense que le code, pour beaucoup de personnes, c'est un peu abstrait. Mmh. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on côtoie tous les jours. Tous les jours, on est n'importe qui et sont sur son site web, son application. Mais en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière.
Ouais.
Et finalement, comprendre ce qu'il y a derrière, bah, ça change ta vie. Que ce soit dans ton quotidien ou dans ta carrière pro. Parce que dans ton quotidien, déjà, tu comprends la sécurité, tu comprends pourquoi ton site bug de temps en temps, pourquoi ça fait ça, pourquoi c'est lent, pourquoi...
Ouais.
Tout ça, enfin moi ça, j'ai découvert plein de trucs dans ma vie quotidienne et ça te permet aussi de changer éventuellement de carrière parce que ça te permet de devenir freelance et donc d'accepter des missions pour créer des sites web, donc tu bosses de n'importe où, avec des horaires super flexibles, quand tu veux, où tu veux. Ça, c'est quand même une
option.
Tu
peux devenir digital nomade, en fait.
Tout ça, ouais. Donc ça, c'est absolument génial. Tu peux complètement changer de carrière parce qu'aujourd'hui, c'est des métiers qui se développent fois 100.
Complètement.
Donc c'est l'occasion d'apprendre à coder et changer de carrière. Et c'est aussi l'opportunité de mettre ton idée en réel.
Ouais.
Donc, si tu as une idée d'application web, sans savoir coder, ça va être compliqué. Et même n'importe quelle idée, aujourd'hui, sans site web, tu es un peu bloqué.
Complètement. Et sur votre site, donc le Wagon Dubaï, donc on va en parler. Donc comment tu as monté le projet, comment ça s'est passé. Mais il est indiqué que Dubaï sera la Silicon Valley du Moyen-Orient et connaît un boom de son écosystème tech soutenu par le secteur privé et public. Je trouve cette idée hyper intéressante, puisque c'est vrai qu'on, bon, même si on s'en doute, on le sait pas forcément. Est-ce que tu peux m'en dire plus et est-ce que ça a fait partie justement de ton envie de monter le projet ici et est-ce que ça a permis de convaincre les fondateurs?
Mais c'est clair que pour moi, le Middle East et Dubaï en particulier, c'est hyper dynamique et on est complètement en croissance. Enfin, on voit que c'est en effervescence. Quoi.
Ouais.
Avec, on voit Karim, qui est une boîte locale qui a été rachetée par Uber à plus de 3 milliards de dollars. Souk, pareil, qui a été racheté par Amazon, 500 millions de dollars. Enfin, on sent qu'il y a un potentiel énorme. Et puis même le gouvernement, il veut que Dubaï soit une des premières villes digitalisées du monde. Donc, tout est numérisé. Tous les services administratifs doivent être 100% online. Il y a des subventions pour la tech absolument énormes. Donc, on sent que c'est en effervescence. Les startups, le nombre de deals n'arrête pas de croître. De plus de 30% de nombre de deals tous les ans. Enfin, voilà, c'est un bouillonnement et donc c'est super excitant. Et on a envie de faire partie
de cette mouvance, et
de cette expansion.
Et
le wagon, clairement, moi, ça m'a clairement donné envie parce que j'ai senti
que le
wagon pouvait permettre aux gens de participer à cette expansion.
Complètement. Et donc, du coup, comment ça s'est passé? Comment tu as présenté le projet? Concrètement, je me mets à la place de quelqu'un qui voudrait justement exporter un concept, par exemple, à Dubaï, si la personne veut bien s'installer à Dubaï. Toi, comment ça s'est passé concrètement, par étapes? Est-ce que c'est toi qui as proposé? Est-ce qu'on est venu vers toi et on t'a dit OK, puisque c'était sur Dubaï, pourquoi pas? Enfin, comment ça s'est passé, en fait?
C'est à partir du moment où on voit un manque dans une ville. Bon, c'est plus facile quand on y a vécu de voir ce qui manque ou ce qu'il existe déjà et voilà. Moi, j'avais clairement vu ce manque et ce potentiel et donc du coup en faisant l'école et en aimant encore plus j'ai eu cette motivation et ça m'a paru vraiment évident qu'il fallait que je fasse ça. Donc je suis allée le présenter au fondateur Boris et Romain qui avait déjà pensé à s'implanter dans la région, qui avait eu différentes pistes, mais sans vraiment avoir eu...
L'opportunité,
ça s'était pas vraiment concrétisé. Et je sais pas, et là, ils ont peut-être senti que c'était la bonne personne et la bonne opportunité, le bon timing.
Et donc, comment t'as monté ça ici? Comment ça s'est passé?
Alors, c'est très récent, ça s'est fait avant le confinement. Donc, étape par étape, la première chose, c'est d'obtenir sa licence.
Donc, toi, c'est une... Parce que je sais qu'il y a plein de statuts et c'est assez compliqué. Donc, toi, c'est quoi?
Moi, je suis en free zone.
Free zone, d'accord.
Et pas en zone franche. Donc, je suis en free zone. Et alors, quand on est une filiale comme moi, c'est encore plus compliqué que quand on montre sa start-up par soi-même ou une franchise.
Okay.
Parce qu'il faut avoir tous les documents légalisés, notarisés par l'ambassade, par tout ça, de l'entreprise mère.
Okay.
Donc, c'est une étape en plus qui est un peu compliquée. Bon, pour être franche, honnêtement, le côté légal ici... c'est la première étape à franchir. Je pense qu'une fois qu'on a franchi cette étape, le reste se fait
naturellement.
Se fait assez naturellement et ici tout le monde est assez ouvert, le bouche à oreille marche assez bien. D'ailleurs, tout marche comme ça.
Oui.
Et ça a un côté assez sympa parce que les gens sont ouverts à aller prendre des cafés juste pour discuter du projet et juste pour discuter. Mmh, et donc, c'est hyper sympa et c'est en fait comme ça que ça marche. Et on rencontre des gens complètement différents et improbables. Et non, et c'est génial comme expérience.
Et tu l'as lancé il y a combien de temps, du coup, concrètement, le wagon
On a commencé en avril.
Et tu dis « on » parce que vous êtes...
Parce qu'avec la France.
Avec la France.
Parce que du coup, on est une équipe... Enfin, le wagon, en fait, c'est une grande famille. Et c'est vrai que toutes les villes s'entraident énormément et on n'est jamais seul. Et donc, je dis « on » en parlant du wagon.
Ouais.
Et donc, le premier bootcamp, la première session sera fin septembre.
Ok, et ça va se passer comment ? C'est en présentiel ?
C'est en présentiel. Alors, le but, c'est que ce soit en présentiel parce que l'expérience du wagon prend tout son sens en présentiel parce que être avec ses collègues pour travailler, c'est quand même beaucoup mieux. Il y a plein d'événements pour aider après à trouver un job après le wagon. Donc, il y a plein d'événements pendant les 9 semaines avec des personnes du milieu de la tech ou avec des développeurs ou avec des alumni, tout simplement.
Génial.
Et donc, il y a toute une ambiance qui se crée. Le but, c'est de créer une communauté aussi derrière ça. Donc, c'est vrai que c'est mieux si c'est en présentiel. Après, dans plein de villes, en ce moment, ça se fait en remote ou en hybride.
Forcément.
Ça marche aussi. Donc, s'il faut et si la situation fait qu'il faut que ce soit en remote, eh ben, ce sera en remote.
Et c'est toi qui va présenter ou accompagner les personnes qui vont apprendre à coder ?
J'organise.
Ou... Toi, tu organises ?
J'organise. Donc, je vais organiser les événements et accompagner les élèves. Après, il y a des profs formés par le wagon qui vont venir ici et qui sont expérimentés pour enseigner aux élèves donc le code avec la pédagogie du wagon, qui est franchement génial pour l'avoir fait.
Ouais.
Et voilà.
Et j'ai une autre question aussi par rapport à ça. Est-ce que, tu peux me dire non, mais est-ce que vous vous êtes dit, OK, est-ce que vous avez adapté votre offre au marché dubaïote ou vous avez simplement dupliqué ? Enfin, vous avez... Par exemple...
Alors, on est en train de l'adapter. Enfin, on l'adapte au fur et à mesure en fonction des étudiants qui arrivent et qui se présentent et des demandes qu'il y a.
Qui sont des Émiratis ou qui sont plutôt des expats ?
Qui sont de tout. Franchement, il y a tout. Beaucoup d'expats, pas mal. Il y a des Saoudiens aussi qui viennent. Et donc, forcément, on va devoir s'adapter. Le but, c'est peut-être aussi de traduire les cours en arabe.
Ben oui.
Il arrive à un moment.
Forcément.
On va lancer le bootcamp, le format en part-time, plus rapidement peut-être que dans les autres villes, pour des soucis de visa, et parce que les personnes qui sont ici sont là, ont besoin d'un visa pour être ici, et donc besoin d'un job. Et donc, pour suivre le bootcamp, il vaut mieux avoir un job et un visa. Et donc, ce sera plus facile si c'est en part-time et qu'ils peuvent faire les deux en même temps.
OK.
Donc voilà, c'est des choses qui au fur et à mesure, s'adaptent au marché en fonction des besoins.
Génial. Et est-ce que vous avez des ambitions particulières ou simplement que ça marche
et que ce bootcamp soit créer une vraie communauté, participer à ce mouvement tech qui se passe à Dubaï. Il y a différentes offres dans les villes. Là, on part sur une offre web développement, donc de site web, mais il y a aussi la data science qui a un autre bootcamp qu'on va monter. Et après, le but aussi, c'est de s'étendre à plusieurs villes dans la région. Donc,
dans la région, ouais.
En Arabie Saoudite, pourquoi pas Oman.
Super. Hyper intéressant. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. J'aimerais finir par des plus petites questions sur Dubaï.
Carrément.
Ce que tu aimes et détestes à Dubaï ?
Alors, ce que j'aime, deux choses. La simplicité de la vie. Alors, je parle en termes administratifs. Je veux dire, tout est simplifié. On a une Emirates ID et on peut tout faire avec. Ouvrir son compte en banque, payer ses amendes. Enfin, c'est hyper simple.
Ouais.
On est livré pour tout. Il n'y a plus de contraintes horaires. Je dois aller chercher mon colis à la poste avant que ça ferme. Voilà.
C'est
donc,
vrai.
Tout ça est quand même simplifié. Et la seconde chose que j'ai découverte, c'est l'ouverture d'esprit ici. Je trouve ça incroyable. J'ai jamais eu autant de discussions sans tabou avec des personnes différentes de moi et différentes. Je veux dire, sur la plage, les burkas, les burkinis se mêlent très bien avec le bikini. Il y a pas de problème.
C'est clair.
On est sur un calendrier musulman, mais dans plein d'entreprises, des employés ont pu prendre leur jour pour aller voir le pape quand il est venu à Abu Dhabi. Donc, c'est quand même super, super, super ouvert.
Ouais.
Et on peut parler de tout. Les gens sont juste curieux de savoir et de comprendre comment toi, tu vis et inversement. Et donc ça, c'est un échange. Ça, j'adore à Dubaï.
Ouais.
Ça, j'adore. Ce que j'aime le moins... ce que je déteste, c'est un peu fort. Ce que j'aime le moins ou ce qui manque le plus, c'est de me dire ok, je sors faire ma virée shopping et je me balade dans Paris. Ici, c'est pas trop possible.
Non,
et c'est
à part les malls, c'est,
voilà,
pas, ouais.
C'est pas trop la vibe. Il y a plein d'autres vibes géniales, aller à la plage,
voilà, en ce moment.
Faire des barbecues.
Ouais, très tôt le matin. Mais...
mais voilà, c'est peut-être ça un peu qui me manque, de traîner dans les rues.
Peu, ouais. Le plus gros cliché sur Dubaï qui n'est pas vrai.
Alors, quand on parle aux gens qui habitent ici, c'est banal, mais c'est vrai que c'est le côté... Tout le monde pense que c'est bling-bling, Dubaï. Et en fait, il y a plusieurs façons de vivre Dubaï. Le luxe est accessible, ce qui est hyper sympa de temps en temps, mais c'est aussi facile et on vit une vie tout à fait normale. Enfin, on va à la plage comme on pourrait aller à la plage en France... Et c'est possible de vivre une vie tout à fait simple sans l'extravagance
et ça, c'est vrai
dépenser
que,
des tonnes d'argent.
C'est vrai que c'est une image qu'on ne voit pas du tout quand on ne vit pas à Dubaï. Quoi.
Ouais.
On pense vraiment que tout est bling.
Et aussi quand on vient en tant que touriste sans avoir des contacts ici.
C'est vrai.
Je pense que le parcours touristique veut aussi montrer le Dubaï grandiose.
Grandiose, tout est payant.
Voilà,
c'est ça.
Et surdimensionné, alors qu'il y a un Dubaï hyper sympa.
Où habites-tu à Dubaï et pourquoi ? Bon, je sais où tu habites, vu que je suis chez toi, mais pour ceux qui nous écoutent.
Donc, j'habite la Marina.
Ouais, le quartier de la Marina.
Pourquoi on est arrivé là ? Enfin, on n'a pas trop... C'était le quartier dans lequel avait envie d'habiter mon copain à l'époque, mon mari, là. Et au final, moi, j'aime bien ce mix entre la mer et le côté ville. C'est-à-dire que j'ai accès à la plage à pied et à beaucoup de choses à pied aussi, le cinéma, la plage, les courses, quand il fait pas 40 degrés et 80% d'humidité, enfin c'est quand même assez sympa de pouvoir aller faire ses courses à pied et de pouvoir faire plein de choses à pied. Donc c'est ça que j'aime bien, il y a une balade sympa autour de la marina pour courir ou pour aller se balader. Donc j'aime bien un peu ce mix ville-mer.
Ouais, c'est pour ça qu'on a choisi nous aussi la marina. Et par contre, c'est un petit peu touristique, je trouve.
C'est un peu
ouais,
ça, c'est vrai.
C'est l'inconvénient du quartier, mais sinon, c'est vrai, on peut se balader quand on a des enfants, c'est super chouette. Tes meilleures adresses à Dubaï ?
Alors, j'aime bien Fish.
Ah oui, j'y suis allée.
Ouais.
Restaurant de poisson.
T'as l'impression d'être en Grèce ?
Ouais, complètement.
Un restaurant sur la plage, trop sympa. J'aime bien Breeze sur le Palm aussi. Ce côté un peu chill, surf house en Californie. Enfin, j'y suis jamais allée, mais j'imagine ça comme ça. Donc, voilà. Et j'ai découvert un autre truc il n'y a pas longtemps à Medina Jumeirah, La Folie. C'est un genre de bar à vin en rooftop avec une vue sur Medina et Burj Al Arab. Et c'est assez sympa.
Trop sympa. Et une dernière question. Qui voudrais-tu entendre sur le podcast ou quel sujet voudrais-tu que l'on aborde ?
Moi, j'adore les podcasts d'entrepreneuses avec des idées un peu pas forcément nouvelles, mais qui racontent leur histoire, parce que je trouve que ça hyper motivant, inspirant, ça donne des ailes, t'as l'impression que tout est possible. Parce qu'à Dubaï, tout est quand même un peu possible.
Ouais, c'est vrai. Avec de l'argent.
Avec de l'argent, ouais. Mais de plus en plus, t'es aidée. Hein,
oui, oui. D'ailleurs, il y a une nouvelle... Il y a un nouveau statut freelance qui a ouvert à Dubaï, pas très cher.
Non, mais ils aident. Enfin,
ouais.
Ils ont besoin
de plus en plus
que
ouais.
les gens viennent s'installer et ils ont envie que ce soit une start-up, un start-up hub. Donc, ouais, ils facilitent beaucoup les choses pour ça. Pour revenir à la question. Oui, qu'est-ce que j'aimerais ? Oui, j'aimerais bien aussi des, ce que j'aimerais, enfin, des sujets, peut-être un sponsor mainland ou un directeur de Free Zone, parce que c'est tellement abstrait ces sujets-là.
Et il faudrait aller creuser ça.
Et donc, si on a quelqu'un qui vient nous expliquer clairement comment ça fonctionne, ce serait hyper utile, je pense.
Bah, c'est noté, et en plus, je comptais le faire.
Génial.
Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.